6h03, vendredi 29 novembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est une belle journée, on prévoit un dégagement ce matin avec des vents légers, maximum autour de moins 1 degré. Donc, pour la journée, soleil, nuages en alternance, nuit avec un ciel dégagé, pas chaud, autour de moins 9. Demain samedi, on prévoit du soleil, moins 3 degrés. Dans la nuit, moins 13. Et finalement, dimanche, c'est un mélange, si on veut, de soleil, nuages. Et à travers ça, peut-être aussi quelques flocons de neige. La probabilité d'averse est à 30 % relativement faible. Et pour commencer la semaine, on aura du temps ensoleillé, des nuages de lundi un peu, et moins 3 degrés. Philippe vous a parlé de cette opération, enfin, ces opérations, je devrais dire, pour combattre l'alcool au volant. Et c'est vrai que l'approche maintenant est tout à fait différente. Les policiers peuvent vous intercepter sans motif. Et en fait, vous amener, quand je dis intercepter, ce que je veux dire, c'est vous amener à passer le test, à souffler, et sans avoir peut-être des signes apparents. Et je sais qu'il y a beaucoup de criminalistes qui trouvent que c'est abusif. Je sais qu'il y a bien des citoyens qui sont inquiets en disant « Est-ce que la police va se venger? On ne m'aime pas à face, puis là, on va me faire souffler. » On parle ici d'opérations précises dans le cas des barrages. Il n'en demeure pas moins que l'alcool au volant est un problème. Moins grave qu'il y a quelques années, mais à chaque année, comme le disait le duc de la Sûreté du Québec, il y a encore trop de gens qui se tuent ou se blessent gravement après consommation d'alcool et de drogue. Il y a de plus en plus d'alternatives qui existent. C'est sûr que quand vous habitez Montréal, c'est plus simple. Transport collectif, taxi, Uber, il y a des moyens de se déplacer. Je pense que les gens aussi, et surtout les jeunes, comprennent mieux la notion de chauffeur désigné. Et aussi, la pratique change. Beaucoup de parents m'écrivent en disant « Quand moi, j'étais plus jeune, je sortais. » Puis disons qu'on était pas mal sur le party. Et là, il y a encore des parties, ils s'amusent, mais il y a beaucoup de parties à la maison. Et il y a des parents qui comprennent que c'est peut-être préférable de voir 2-3 ados coucher à la maison plutôt que de les voir partir comme ça tard en fin de soirée. Et la phrase qui est la plus importante, c'est une jeune fille qui m'avait dit ça quand on avait fait des rapages. Première question que tu dois te poser, c'est comment je reviens? Tu sais, je sors, je vais m'amuser, je vais boire, comment je reviens? Parce que quand tu prends la décision à la fin de la soirée, c'est peut-être pas le meilleur moment. Alors, est-ce que je vais prendre un taxi? Est-ce qu'il y aura un chauffeur désigné? Est-ce que... Et la période des fêtes, c'est sûr, c'est une période propice aux festivités. Mais sauf erreur, là, c'est souvent durant l'été où on a plus de consommation d'alcool, puis plus, malheureusement, d'accidents. Donc, on va y revenir tantôt. Et hier, on a vu le SPVM qui veut sensibiliser les conducteurs de poids lourds, parce que là, on va entrer dans les périodes de déneigement, avec les camions et encore plein de piétons qui, malheureusement, se font blesser ou tuer. Je regardais les chiffres, on en a parlé avec Marie-Laurence il n'y a pas très longtemps. Il y a quoi, 20 piétons à date là, qui sont décédés depuis le début de l'année. Souvent des personnes âgées, des gens qui ne traversent pas aux intersections. Ce matin, je lisais dans The Gazette où ils ont fait une démonstration avec un camion de la ville dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, où la mairesse Sue Montgomery est au volant du poids lourd, puis les fameux angles morts où elle ne voit pas quelqu'un. Et il y a le témoignage d'une dame qui s'appelle Danielle Morancy, qui est une personne aînée, et qui a failli se faire écraser à un moment donné par un camion, qui ne l'avait pas vu. Elle a pris sa canne, puis elle s'est mise à cogner sur le camion. Puis là, le chauffeur, il a fait un doigt d'honneur. Mais ça, c'est toujours le problème des confrontations, puis comment on partage l'espace en sécurité. Et c'est vrai qu'il y a tous les obstacles qu'on connaît à Montréal, je vais vous faire la liste. Mais c'est sûr que j'en vois des gens qui traversent, je dirais, dans le milieu de la rue, là. Puis des gens qui regardent pas trop, puis des gens qui sont distraits, puis qui regardent leur téléphone, puis qui sont, tu sais, qui sont pas très, très attentifs, finalement. Alors, c'est sûr que ça, des gens qui disent « ça fait moral, votre affaire », là. Mais ce sont des rappels quand même qui sont importants. Et puisqu'on parle de circulation, je lisais ça ce matin dans la presse, avec tous les chantiers qui s'en viennent, là, puis deux montagnes à partir du 6 janvier. Là, ce sont les citoyens de Mont-Royal. Si vous connaissez le coin un peu, là, vous avez les grands boulevards Graham, Laird également. Et là, avec les travaux qui sont prévus pour le printemps prochain, puis je rappelle là aussi qu'ils perdent la liaison ferroviaire à cause des travaux du REM, là, on prévoit 1 kilomètre de bouchons sur les boulevards. Et le maire dit que ce sera un stationnement soir et matin. Parce qu'il n'y a pas 26 000 façons d'entrer à Ville-Mont-Royal, on le sait, là. Et ce sont les axes principaux. Et ça va être complètement bloqué, entre autres choses. Bon, parlons de Mike Ward. Décision de la Cour d'appel. C'est une décision 2-1. Donc, deux juges qui refusent l'appel. Et une juge qui, elle, aurait cassé le jugement de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Alors, c'est quoi le fond? D'abord, il ne s'agit pas de savoir si c'est diffamatoire. Il ne s'agit pas de savoir si Mike Ward a été grossier, vulgaire dans le propos. La question, c'est est-ce qu'il y a eu discrimination? Donc, il y a deux juges qui ont dit « ouais, ce qu'il a dit, il a beau être un humoriste, il a beau avoir un style qui est connu, donc de dire des méchancetés, humour qui est caricatural, qui peut être vulgaire. Dans le cas du petit Jérémy, qui est maintenant le grand Jérémy, là, ben, c'était discriminatoire comme propos. L'autre juge, et ça c'est intéressant, elle, au contraire, dit il n'y a pas de discrimination dans les propos tenus par Mike Ward. Elle dit qu'une personne raisonnable aurait considéré que les propos s'inscrivent dans le cadre d'un humour noir caractérisé par l'exagération, la généralisation abusive, la provocation, la déformation de la réalité. Et elle n'aurait pas interprété au premier niveau les expressions. Autrement dit, c'est de l'humour, c'est pas fin, tu as le droit de pas aimer ça, mais c'est pas discriminatoire. Alors, comme 2 juges sur 3 ont décidé que seul l'était, Mike Ward a décidé d'aller en Cour suprême et on va parler avec l'avocat Julius Gray qui le représente dans ce dossier. Il faut dire également que l'amende est maintenue dans le cas de Jérémy, 35 000 $. La mère qui avait été compensée dans le jugement de la décision de la Commission des droits, elle perd le montant qui était promis, si on veut, parce que les juges ont dit, écoutez, elle n'a pas subi de dommages là, comme tel ou des suite aux propos. C'est pas elle la victime. S'il y a une victime, c'est pas elle, c'est Jérémy Gabriel. On va aller retrouver Marc à 6h12. Comment ça va sur le réseau? Merci beaucoup. Vous vous souvenez peut-être de cette entrevue qu'on a faite il y a quelque temps au sujet de Jessica Soto, cette jeune femme qui a un diagnostic de cancer et qui a besoin d'un traitement de cellules souches. Et elle cherche un donneur qui, évidemment, doit être compatible avec elle. Et donc, on cherche quelqu'un qui est d'origine latino-américaine. Et si vous allez sur le site web de la station, vous allez retrouver des liens pour un site web, pour une page Facebook. Donc, faire circuler parmi les gens de la communauté latino-américaine, ça prend une personne là, qui est compatible. Ils ont fait des efforts, des recherches dans l'environnement immédiat, dans la famille. Puis malheureusement, il n'y a pas de donneur. Et c'est fondamental pour elle. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous-même vous êtes d'origine latino-américaine, vous pouvez peut-être sauver sa vie. Elle s'appelle Jessica Soto. Bon, on a annoncé hier ce programme, cette réforme du congé parental. D'abord, si le père s'implique, plus de semaines au total pour la famille, une période un peu plus longue, 1 an et demi, pour prendre les semaines, et aussi, dans le cas des parents biologiques, ça veut dire plus de semaines que pour les parents qui sont en mode d'adoption. Le ministre a dit hier, le ministre Boulay, ben, un accouchement, il y a un effet physiologique qu'il faut considérer. Et donc, on accorde plus de semaines aux parents de cette façon-là. Dans le cas des parents adoptants, ben eux disent, je comprends qu'on n'a pas accouché comme tel, mais en même temps, là, la réalité de l'adoption, qu'elle soit locale ou internationale, ça demande un investissement des parents. Des enfants qui sont souvent, malheureusement, qui ont eu un début de vie dans des conditions pas faciles, des problèmes d'attachement, ça prend du temps. Il faut investir de son temps. Et pourquoi on serait face à deux catégories, dans le fond, d'enfants au Québec? Tu sais, l'autre fois qu'on avait deux catégories d'enfants pour ce qui est des garderies. Tu sais, si tu vas dans une garderie, c'est pas toujours ton choix, là, privée, non subventionnée, bien, tu bénéficies pas des largesses que le gouvernement vient de faire pour les autres parents. Tu sais, il y a comme deux catégories d'enfants ou deux catégories de parents. Là, on nous dit, bien, je comprends que c'est pas majeur, là, c'est 3 semaines de différence au total. Mais c'est pas vrai là, que des parents qui adoptent font pas face à des défis majeurs et n'ont pas besoin aussi de temps. L'autre chose, moi, je peux vous dire que dans d'autres pays, la période pour prendre le congé parental est pas mal plus longue que ça. Ça peut s'étaler sur quelques années. C'est pas tant le nombre de semaines là, qui est en cause. T'sais, ça donne grosso modo 1 an. Là. Mais vous pouvez, c'est une décision des parents, de dire, bien... La femme va prendre tant de semaines, le gars va prendre tant de semaines, mais ils ne prennent pas toutes les semaines, puis ils vont se garder une banque. Puis ils vont dire à un moment donné, par exemple, quand l'enfant va aller à la garderie ou quand l'enfant, je ne sais pas, durant des périodes X, des blocs de 2 semaines, 3 semaines, il faut que ça soit négocié, bien sûr, avec l'employeur, mais ça permet beaucoup plus de souplesse. Et je pense, c'est en Suède où ça peut aller jusqu'à la première entrée, en fait, la première année à l'école, là. La rentrée scolaire, tu dis, je veux être présent quand il va commencer l'école, je veux que ça soit plus simple. Alors, ici, c'est mieux que c'était, mais ça demeure quand même assez limité dans le temps. Parlons de la DPJ, puisqu'on parle des enfants. La commission Laurent poursuit ses travaux. Et hier, maître Catherine Brousseau, qui est présidente du comité consultatif en droit de la jeunesse du barreau, a témoigné. Et ce qu'elle a dit, on va lui parler tantôt, là, on le savait. Et je vous ai déjà parlé de ça. C'est-à-dire que même quand l'enfant, le signalement est fait, même quand il y a eu enquête, même quand on prend des mesures pour protéger l'enfant et qu'il y a une décision d'un juge qui est rendue et que dans cette décision, le juge dit « Cet enfant-là doit être vu par des spécialistes. Cet enfant-là, voici les critères pour le remettre soit à ses parents ou encore pour s'assurer qu'il va être accompagné, puis qu'on va en prendre soin, puis qu'on va être capable de l'amener plus loin dans la vie. Ben, dans bien des cas, les décisions de cour ne sont pas respectées. Pourquoi? Réponse classique et habituelle, manque d'effectifs. On n'a pas de ressources. Pas qu'on ne veut pas, mais l'enfant demeure donc, malgré l'enquête de la DPJ, malgré une décision d'un juge, dans des situations qui sont parfois en danger. Il n'y a pas juste l'enfant, là. Tu vas dire à des parents, là, OK, voici ce que vous allez faire. Puis voici comment on va vous encadrer. Puis malheureusement, ça ne se fait pas. Et j'ai vu des juges péter des coches en disant, le dossier revient, puis tu dis, est-ce que ça a été fait? Puis là, ben non, ça n'a pas été fait. Comment ça, ça n'a pas été fait? On n'avait pas de ressources. On n'avait pas les employés, on n'avait pas les spécialistes, on n'avait pas les intervenants pour faire ça. Alors, c'est assez préoccupant. Parles-tu un peu de politique? La pub du Manitoba dont je vous parlais hier matin, là, les raisons de venir au Manitoba pour travailler dans la fonction publique, puis là, la photo qui était, en fait, les 3 photos, photos de signes religieux, donc employés avec hijab, avec une petite croix et avec la kippa. Alors, beaucoup de réactions, hein, François Legault, le premier ministre, qui a dit hier dépenser de l'argent d'une autre façon, puis c'est pas de leçon à donner trop sur le respect des droits des minorités, notamment la minorité francophone au Manitoba. Puis vous aviez aussi le chef du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui avait une lettre ouverte dans des journaux en Alberta. Fait que là, on se garoche un peu, si vous voulez, de la boue de part et d'autre. T'sais, le Manitoba vient nous baver un peu ici, puis venez-vous-en, tu sais, ils veulent pas vous avoir comme enseignante parce que vous portez le hijab ou vous portez une croix, ou bon, nous, on va vous accueillir dans notre province. L'autre chose dont je veux vous parler, c'est le dossier de Desjardins concernant l'investissement dans le groupe Capital Média. beaucoup de gens m'écrivent en disant, il n'y a pas d'argent à faire là. Pourquoi est-ce que Desjardins, avec nos épargnes, mettraient de l'argent? Un des arguments, c'est de dire, ouais, mais c'est du capital de risque et Québec accorde un crédit d'impôt substantiel. Mais je vais prendre des exemples de mes collègues. Bernard disait hier, il faut, c'est 2 millions, c'est pas la fin du monde, ça va sauver des jobs, ça va sauver l'information régionale. Pierre-Yves disait, hey, c'est pas un don, là. Si on croit pas au modèle d'affaires, on met pas d'argent là-dedans. François Legault est allé plus loin hier, si vous l'avez entendu, là. Il a dit, tu sais, c'est pas une menace, mais pas loin. Mais là, ils sont pas capables de comprendre c'est quoi un investissement dans le monde coopératif, puis comment ils peuvent contribuer pour un petit 2 millions à sauver l'information régionale. Peut-être qu'on va revoir les avantages fiscaux qui sont accordés. Pourquoi donner un crédit d'impôt si ils sont peureux et trop prudents? Ça veut dire, hey, non seulement tu vas revoir ta décision, là, mais tu vas le mettre le 2 millions. Puis si tu ne mets pas le 2 millions, ça se peut que le gouvernement, là, dans le prochain budget, dise, ben, donnera pas ce genre de crédit d'impôt. Le nouvel immeuble de Radio-Canada va coûter 287 millions. C'est 17 millions de plus que ce qui était prévu. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont besoin de plus de bureaux, parce qu'il y a des travaux supplémentaires qui ont été faits, parce que, bon, il y a des changements technologiques aussi. Et ce déménagement va s'étaler quand même sur un bon bout de temps. Puis comme ils avaient besoin de plus d'espace, dans la grosse tour, ils ont loué à l'acheteur, là, parce qu'on sait que c'est le groupe Mac et ça va être complètement transformé, bien, ils ont loué des espaces pour entreposer. Et donc, ça veut dire, c'est quand même assez magnifique comme... quand nous, on regarde ça, t'es presque jaloux, ils ont des studios insonorisés. Nous autres, on entend le monde avec le pic puis le marteau puis les installations de salon, si tu veux. C'est comme ça. Ça a l'air très bien. Et là, des espaces, des aires ouvertes, là, il n'y aura pas de bureau vraiment, à part quelques salles. Et là, ils nous jurent que ça ne coûtera pas plus, que ça va se prendre dans le budget, qu'il n'y a pas de montant. Là. T'sais, Radio-Canada se défend pas mal. Il faut dire que des fois, tu entends des échos des travaux de construction. T'sais, des portes qui ont été mal faites, mal conçues. T'sais, aménager un immeuble de télé et de radio, pas toujours très simple. Alors, donc, le building va être prêt, mais le déménagement va se faire progressivement. Et aussi, ce matin, le gouvernement du Québec, vous allez voir ça un peu partout, là, qui souhaite accueillir plus d'étudiants étrangers. Alors, c'est la ministre des Relations internationales qui veut voir cégep et université accueillir, je ne sais pas si c'est en réponse au dérapage là, sur le programme là, qui visait justement des étudiants qui étaient ici, puis d'autres qui voulaient venir au Québec. On comprend qu'il y a eu de la fraude, là, qu'il y a eu de la malversation, qu'il faut serrer les vis, qu'il faut être plus rigoureux, notamment sur l'apprentissage et la connaissance du français. Mais le message qu'on envoyait, c'était pas très, très accueillant pour des étudiants étrangers. Alors là, on a une nouvelle approche, nouveau volet, si vous voulez, de la politique internationale. Et pour ce qui est du Vendredi fou, je le disais tantôt, il y a plein de manifs en France pour dénoncer ça. On parle de consommateurs en Syrie, puis que, bon, tu sais, c'est vraiment, là, on a une avalanche de pubs pour nous faire dépenser. Et aussi des gens qui manifestent pour nous rappeler qu'il faut justement pas trop consommer, pas trop dépenser. Pierre-Yves va nous en parler tantôt, mais en bout de ligne, c'est notre choix d'envie. On peut tout faire ce qu'on veut, puis ça nous tente de profiter des rabais, dans la mesure où ce sont des vrais rabais, ce qui n'est pas tout à fait toujours le cas. On te fait croire là, que tu bénéficies d'un vrai rabais, mais il faut mettre un bémol. C'est une décision en bout de ligne quand même qui nous appartient. 6h23 minutes. Allons voir ce qui se passe sur la métropolitaine.